Guillard par le père Philippe Saint-Joseph, le 9 janvier 85.
Normalement s'achève en contemplation. Autrement dit, le premier mode particulier de la contemplation, en mode génétique, c'est la contemplation extérieure. Sûrement celle qui est la plus proche de nous. Et celle qui, d'une certaine manière, va mobiliser toutes nos capacités de connaissance. Ce n'est pas la plus élevée, bien évidemment. La plus élevée, c'est la contemplation métaphysique, c'est la vie de l'échange. Je vais vous en préciser ce que je voulais bien comprendre. Donc, la théorie. La théorie, la contemplation. La contemplation est donc une activité du monde. C'est l'activité la plus profonde de l'intelligence. L'activité ultime de l'intelligence. C'est une activité qui est au-delà de tous les événements. C'est une activité qui implique un regard à l'intérieur de la vie. Et qui implique un certain recul. Je crois que tellement tous les philosophes qui parlent de la contemplation reconnaissent ces quelques caractères de la contemplation. C'est un repos. Un repos, ça veut dire tout n'est pas la vie. Un repos en ce sens que toutes les autres activités sont en repos. Vous ne pouvez pas avoir une main qui est en train de se faire, une main qui est en train de se faire. Si, au point de vue du humain, au point de vue contemplatif, on pourra dire, on a un cheveu qui est comme ça. D'une main, je touche le pied du Dieu, et de l'autre, je travaille. Ça, c'est très bien. Ça, c'est la contemplation mystique. Et ça. Mais la contemplation au point de vue philosophique, il est évident que la contemplation implique une mobilisation de toutes nos forces intellectuelles. Toutes nos forces intellectuelles sont saisies, sont mobilisées. C'est en ce sens-là qu'il y a un repos. Et c'est un sommet. À l'intérieur de l'amour, il y a donc un regard. Un regard qui est un jugement. C'est un jugement. Un jugement artistique ou esthétique, un jugement affectif, il y a une contemplation affective, et un jugement philosophique, si vous voulez, de philosophie première, au-delà de la métaphysique, de philosophie première, du nous séparer. Je crois qu'il y a trois modalités de contemplation au niveau philosophique. Au plan proprement chrétien, on aura une contemplation acquise et une contemplation infuse. Les trois types de contemplation philosophique sont acquises. On devient contemplatif. Tandis qu'au niveau proprement mystique, ça nous est donné comme une grâce. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que la contemplation est le fruit, donc acquise et infuse. Acquise, c'est l'habitus de sagesse théologique et l'habitus de sagesse, don du Saint-Esprit. Ici, l'habitus de sagesse et de philosophie. Voilà les trois sagesses. Or, les deux autres ne sont pas au sens strict de sagesse, et cependant, on peut parler de contemplation. On peut parler d'une contemplation esthétique. On peut parler d'une contemplation affective. La mère qui contemple son petit enfant. L'ami qui contemple son ami. La fiancée qui contemple son fiancé. Ça passe. Tandis que. Et le fiancé qui contemple sa fiancée. Alors, ça, c'est une certaine contemplation. Contemplation affective. Non pas esthétique et affective. De temps en temps, il peut y avoir la conjonction des deux. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une modalité différente. Donc, si le fiancé épouse sa fiancée parce qu'elle est comme une déesse, c'est une condamnation esthétique. Et si il épouse parce qu'il l'aime, c'est une condamnation affective. Alors, de temps en temps, il peut y avoir le joint des deux, c'est sûr. Mais évidemment, il y a une option, un sens, et une autre. Je vous avais dit, en Grèce, pendant ce voyage, en l'an 50, avec un artiste de Genève, un sculpteur, j'étais dans une île, regardez cette pièce. Ça, c'était la contemplation esthétique. C'était une pièce, il est descendu de là. Si j'essaie de comprendre ces divers types de contemplation, nous avons donc cinq modalités. Vous comprenez que si je veux savoir cinq modalités, si je veux savoir qu'est-ce que c'est que la contemplation, la ratio contemplation, comme dirait Saint Thomas, la ratio contemplation, je dois à partir de ces cinq modes saisir ce qu'il y a de commun. Au-delà de ces cinq mots, saisir ce qu'il y a de commun. Alors là, je saisis la ratio. Parce que ce que je connais en premier lieu, ce sont ces cinq mots. Contemplation esthétique, contemplation affective, contemplation de philosophie première, contemplation de théologie, contemplation infuse. Si nous pouvons avoir les cinq expériences de ces contemplations, nous pourrons donc mieux saisir ce que c'est que la ratio contemplationniste. Ce que c'est que le logos de la théorie. Saisir ce que ça représente. Si nous n'avons pas les cinq modalités, on peut en avoir un, une ou deux. Déjà avec une seule, je peux saisir la ratio. Mais c'est très difficile. Très très difficile. Normalement, c'est quand j'en ai deux. Tout le monde va voir la contemplation esthétique et la contemplation affective, je crois. Évidemment, il y a des gens qui ont plus ou moins la contemplation esthétique. Il y a toujours des néociens. Ordinairement, il y a un domaine dans lequel on est plus porté à la contemplation, ou d'un côté musical, ou d'un côté pictural, ou d'un côté plastique, et ainsi de suite. On a tous, je crois, un homme normal, un sens artistique selon une certaine modèle. Il faut la trouver. C'est bon de développer ça. Il ne faut pas aller contre-courant. Il n'y a donc un sens de ce que vous êtes là, pas d'autre. Laissez-la trouver. Et taisez-vous devant des artistes. Pour ne pas dire de grosses, grosses victimes. Pour avoir l'impression d'être vraiment avoir suffisamment conscience que dans certains domaines, il vaut mieux rien dire. Dans les autres domaines où on a certaines compétences, on peut parler. Mais ça, c'est l'homme cultivé. L'homme cultivé ne connaît pas tout, mais il sait ce qu'il connaît, il sait ce qu'il ne connaît pas. C'est la définition de l'homme cultivé. Et autant que possible, on va avoir une culture pour savoir ce qu'on ne sait pas. Et qu'on est en face quelquefois de gens qui connaissent beaucoup mieux certains domaines que nous, à ce moment-là, on se tait. On ne pose même pas de questions. Parce que quelquefois, quand on pose des questions tellement bêtes, on montre et on manifeste qu'on ne sait rien du tout. Alors, je n'ai même pas posé de questions. On peut poser des questions quand il est dans un petit cercle de câble, un ambassadeur n'a pas d'importance, ou une personne qui dit, je suis complètement ignare dans ce domaine-là. Alors, dites-moi tout, je vais développer ça. Expliquer autrement quand on est avec des gens qui ne sont pas des élus et ils ont dit bah, c'est élémentaire. Alors, jugement, je ne crois pas à la contemplation esthétique. elle n'est pas possible. Je prends, si vous voulez, au point de vue proprement pictural. On pourrait faire dans toutes les modalités, en appelant esthétique de la danse, la contemplation esthétique de l'architecture, et ainsi de suite. Il y a une contemplation esthétique au niveau d'une œuvre picturale. Ça porte sur quoi ? Parce qu'il y a un regard. Ah, regarde, il y a quelque chose d'objectif dans la contemplation. Il y a toujours quelque chose d'objectif. Alors, ce quelque chose d'objectif porte sur quoi ? Je crois qu'il porte sur une harmonie. Un rapport, parce que l'harmonie, c'est un rapport harmonieux entre l'aspect des diverses couleurs de la figura, toujours une figura, et de la lumière. La lumière est indispensable, et elle est à l'intérieur d'un ordre, d'une harmonie qui existe au niveau couleur et au niveau figura. La figura en dernier lieu, vous voyez, et pas en premier. Au point de vue pictural, c'est évident que ce n'est pas la figura qui est première, c'est la couleur. Et la lumière, c'est ça qui est premier. Et je ne crois pas qu'on puisse abstraire la figure. C'est l'art abstrait qui consisterait à supprimer la figura. La figura. Mais il y a toujours une figura. Si on emploie bien le mot figura dans le sens d'un terme, un contour, c'est pas seulement une figure expressive. C'est pas ça la figura. Il y a une figura d'un paysage. Un paysage, c'est une figura. Et le paysage implique couleur et lumière. Et ce qui est contemplé, c'est la lumière dans les couleurs, l'harmonie dans les couleurs. C'est ça qui est contemplé. Et la contemplation, ce n'est pas la figura qui est contemplée. La figura sert de sujet, de matière. Tout repose. C'est pour ça que l'art chrétien n'est pas une figure chrétienne. C'est pas parce que je vais destiner le Christ que ce sera de l'art chrétien. Ce sera quelquefois pas d'art. Il n'y aura pas de contemplation du tout. Et quelquefois, il pourra y avoir alors quelque chose de particulier, une lumière particulière qui va illuminer le mystère de Marie, le mystère de Jésus, dans une couleur spéciale. Lumière, couleur, figura, dans un rapport. Alors, d'une certaine manière, c'est bien le rapport qui est saisi. Et pourtant, nous, c'est la lumière dans le rapport, et la couleur dans le rapport. Et c'est pas le rapport. Mais c'est la lumière. Et le rapport, oui, c'est les deux. C'est, le rapport, c'est l'intelligence. Alors, il peut y avoir une contemplation esthétique plus ou moins intellectuelle. Mais la contemplation esthétique implique toujours l'intelligence liée aux sensations. C'est ça qui caractérise la contemplation esthétique. C'est l'intelligence, c'est liée aux sensations. Alors, l'imagination joue un rôle très important pour donner aux sensations un relief unique. Grâce à l'imagination, les sensations ont un relief unique. Et par là, l'intelligence, elle n'est pas séparée. L'intelligence est présente dans l'imagination et dans les sensations. Mais la sensation joue un rôle capital dans la contemplation esthétique. C'est pour ça qu'on dit contemplation esthétique. C'est dit de dire de la sensation. C'est une contemplation sensible. Et c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'art, c'est toujours une contemplation sensible, qui ne peut pas se séparer du sensible. Alors, faites le parallélisme pour le point de vue de la musique, pour le point de vue de la sculpture. Ce sera toujours les sensibles propres, toujours les sensibles propres, qui seront mis en pleine lumière grâce à l'imagination. Et l'imagination, liée à l'intelligence, donne des rapports et des harmonies différentes. Et donc mettre en pleine lumière ces sensibles propres qui sont illuminés par la lumière. Mais c'est bien les sensibles propres qui sont le contenu de la contemplation esthétique, mais les sensibles propres pris sous la lumière et dans la lumière. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est la lumière qui illumine les sensibles propres. C'est plus juste même que de dire les sensibles propres illuminent. C'est la lumière. C'est la lumière saisie d'une manière particulière. La contemplation affective, c'est l'intelligence liée à l'amour, liée à l'imagination, liée aux sensations. Dans la contemplation esthétique, il y a bien un amour, mais l'amour ne spécifie pas la contemplation. De ce point de vue-là, la contemplation esthétique a quelque chose de beaucoup plus intellectuel que la contemplation affective. Beaucoup plus intellectuel. Ordinairement, les artistes sont beaucoup plus intellectuels que les points de vue affectifs. Ils ne veulent pas trop d'affectivité parce que ça risque de gâter leur art. L'amour. Alors ils veulent plus de lumière, plus de lucidité, plus de lumière. Et ça, c'est le côté lumière, justement, qui est présent, mais c'est le côté de l'intelligence. Tandis que dans la contemplation affective, l'intelligence est liée à l'amour, et l'amour joue un rôle de détermination. Je ne peux pas, je contemple à l'intérieur de l'amour. Parce que l'ami m'est ami dans cet amour. C'est l'ami. Alors, il y a une noblesse plus grande que la contemplation esthétique, puisque l'objet contemplé n'est plus une œuvre, c'est l'ami. C'est l'ami que je contemple. Mais ça a une noblesse moins grande du côté contenu, puisque c'est le côté affectif qui domine. Alors, l'intelligence liée à l'amour, l'amour est donné lui-même à travers l'imagination et les passions. Et les passions sont liées à la sensation. Et il y a toujours les sensations qui sont présentes dans la contemplation affective. C'est l'ami comme terre qui est contemplée, qui est regardée. Ce n'est pas l'homme, c'est l'ami, qui est porté à travers ce côté affectif, ce côté amour, ce côté imagination et passion. C'est pour ça que c'est très complexe, hein, la contemplation affective. La contemplation affective, ça saisit l'homme dans tout ce qu'il est. Et les passions sont présentes. Ça, c'est impossible autrement. Il y a une véhémence dans la contemplation affective qui provient des passions. C'est beaucoup moins véhément la contemplation esthétique. Les passions sont présentes puisqu'il y a la sensation et l'imagination. Donc on ne peut pas nier qu'il y a les passions, il y a le côté affectif. Mais c'est dominé par la connaissance. Je crois que le propre de la contemplation esthétique est toujours dominé par l'intelligence. Une intelligence liée à l'imagination, liée aux sensations. Inséparable, mais présente dedans. Tandis qu'au contraire, dans la contemplation affective, l'intelligence est comme noyée dans l'amour. Elle est entièrement prise par l'amour. Et c'est à l'intérieur de l'amour que je suis proche de l'amour et que je peux le contempler. Dans la contemplation philosophique, qu'est-ce que nous contemplons ? Dieu, créateur. C'est Dieu dans ses diverses modalités d'exister. C'est pas Dieu dans son essence, ce que j'appelle. C'est Dieu dans ses diverses modalités d'exister. C'est-à-dire, ce que je contemple, c'est la simplicité de Dieu, c'est la perfection de Dieu, c'est Dieu dans sa manière d'exister. Et le content, en tant qu'il est créateur, c'est-à-dire en tant que justement il y a un lien profond avec ce que je suis. Cette contemplation inclut un amour. Je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu et contempler Dieu sans amour. Un amour de la vérité. Un amour de la vérité. Je pense qu'on a des gens allés jusqu'au bout. Cet amour de la vérité est présent, mais ne spécifie pas ma contemplation. Il porte mon intelligence. Cet amour est là pour maintenir l'attention. Cet amour est là pour permettre à l'intelligence d'être plus proche d'une réalité qui m'échappe. Alors vous voyez, c'est là la très grosse différence. C'est quand il s'agit de la contemplation esthétique. L'objet contemplé, l'œuvre d'art, l'œuvre artistique, l'œuvre d'art ou la nature. La nature douce. Je vais avoir une espèce de contemplation d'un magnifique, d'une nature étonnante. C'est toujours le point de vue de la qualité. Ou l'œuvre d'art, ou de la nature. Voilà, vous allez me dire un visage humain. Aussi. C'est bizarre, c'est pas la personne. Visage, la physionomie, c'est la figure. C'est bizarre. Donc l'œuvre d'art, la nature, ou la nature. C'est toujours immédiat. C'est une contemplation de quelque chose d'immédiat. C'est important à souligner, parce que certains diront que la contemplation est de l'objet immédiat. Non. C'est vrai pour la modalité esthétique, et c'est vrai pour la contemplation affective. Qu'est-ce qui caractérise la contemplation affective et la contemplation esthétique? C'est que justement, ce que nous contemplons nous est donné immédiatement. Pas d'intermédiaire. Nous est donné immédiatement. Tandis qu'au contraire, dans la contemplation de philosophie première, Dieu est présent, mais il n'est pas connu immédiatement. C'est pour ça que cette contemplation est plus pauvre quant à sa modalité. Elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus noble quant au terme contemplé, puisque c'est le créateur. Donc elle a un absolu beaucoup plus grand. Mais elle est la modalité de l'acte de contemplation est beaucoup plus fragile. Je ne peux pas contempler aussi longtemps, philosophiquement parlant, Dieu, l'œuvre d'âme. L'œuvre d'âme est donnée immédiatement. Ou la vie. L'élément passionnel dans la contemplation philosophique est très réduit. Si je suis même trop passionné, je ne pourrais pas contempler philosophiquement. C'est pour ça qu'un message dit que je vais attendre 45 ans. Avant d'avoir la contemplation de la vie. Parce qu'autrement, on est trop passionné. Alors on peut avoir des contemplations esthétiques et effectives bien avant, heureusement. Mais la contemplation métaphysique, il faut du temps. Elle regarde Dieu et elle se fait par l'intermédiaire de quelque chose de créé. Alors ça, c'est là où c'est très délicat de voir qu'est-ce que c'est que ce métaxion. Quel est l'intermédiaire qui nous permet de contempler Dieu créateur? C'est nécessairement un effet. C'est-à-dire quelque chose de créé. Alors, je pourrais dire que parmi les choses créées, quelle est la plus parfaite? C'est l'homme. Nous servir de l'homme comme créature. Mais l'homme, en tant qu'il est bon. Donc l'homme dans son amour, ou l'homme dans sa contemplation. Très très curieux. C'est pas l'homme pris sa substance. C'est pas l'homme pris dans sa nature. C'est la personne et l'acte. Et je crois qu'on peut dire que c'est la personne et l'acte. Pour les anciens, c'était les sphères. Par exemple, c'est les sphères. C'est l'ordre du monde. Nous dirions tout ça. Ce n'est pas l'ordre du monde qui est l'effet le plus parfait qui nous permet d'être le plus proche du monde. C'est pas l'ordre du monde. Pour les anciens, c'était l'ordre du monde parce que les sphères célestes étaient vivantes et étaient des réalités qui étaient particulièrement parfaites. Je peux vous dire ça. Le monde de la quantité n'est pas celle plus proche de Dieu, c'est le monde de l'esprit. C'est donc la personne humaine. Et la personne humaine en acte. En acte, c'est-à-dire finalisée. La personne humaine aimant et la personne humaine contemplant. C'est ça qui me permet d'être le plus proche possible du Dieu créateur. Donc c'est la personne. Et son emprise. C'est-à-dire l'amour. L'amour qui nous relie à la vie et la contemplation qui nous relie à sa vie. Très curieux, c'est même très intéressant de voir ça. Ma contemplation, ma contemplation de Dieu va nécessairement se servir d'un intermédiaire, pas d'autrement. Je ne peux pas contempler directement Dieu. Je dois contempler Dieu à travers un miroir. Où la physionomie de Dieu, la manière d'exister de Dieu, m'est-elle donnée de la façon la plus parfaite? Elle m'est donnée dans l'homme. C'est l'homme et chef-d'œuvre de Dieu. Mais l'homme et chef-d'œuvre de Dieu, non pas dans sa substance, non pas dans son individuation. Il est chef d'œuvre de Dieu dans son activité d'homme et dans son activité personnelle. Et son activité la plus parfaite, c'est-à-dire quand il aime et quand il contemple. C'est évident quand il contemple. Alors vous allez me dire, mais c'est invisible la contemplation et la vie aussi c'est invisible. D'une certaine manière. Vous avez dit la répétition de principe. Je vais juste vous dire. La répétition de principe, puisque pour pouvoir contempler Dieu, vous vous servez de la contemplation. Alors qu'est-ce qui est premier ? La contemplation de Dieu va spécifier la contemplation. Et vous ne pouvez pas vous servir de la contemplation de votre voisin. Parce que vous ne la voyez pas. Se reflète pas l'extérieur, ça peut se dire comme l'intérieur, comme l'amour. Vous voyez, l'amour d'amitié n'a pas besoin de la contemplation de Dieu. Et l'amour d'amitié est un métaxu qui me permet de contempler Dieu. Et une fois que je contemple Dieu, la contemplation de Dieu me permet d'aller plus loin dans la contemplation de Dieu. C'est ça qui est un peu plus difficile. Mais simplement un ordre. Respecter. Et qui est très bon, tu vois. Je vous prends le raisonnement pour que vous compreniez bien. L'amour d'amitié est antérieur à la découverte de Dieu. C'est sûr. Aimer un ami sans avoir découvert l'existence de Dieu, heureusement, parfois, c'est dans ce sens-là que je peux dire que l'éthique a une finalité antérieure à la finalité ultime et dernière de la philosophie. s'ordonne vers un bien qui me plaise. Et je peux, à travers ce bien, découvrir la présence de celui qui est source de tout amour. Et je peux, une fois me comptant cette source de tout amour, avoir une véritable contemplation de Dieu, qui n'a pas comme métaxu la contemplation de Dieu, mais l'amour. Et je peux, dans une attitude réflexive, revenir sur mon acte de contemplation de Dieu et me servir de cette contemplation de Dieu pour aller plus loin de la contemplation de Dieu. Il n'y a pas de pétition de principe, mais simplement. Enfin, je crois que c'est très important pour ne pas dire, à la suite d'Aristote, que la contemplation de Dieu se fait par l'ordre de l'univers. Pour Aristote, l'ordre de l'univers, c'était ce qu'il y avait de plus parfait parmi toutes les choses créées. Pour nous, ce qui est le plus parfait parmi toutes les choses créées, c'est l'amour d'amitié, en premier lieu. Et en second lieu, la contemplation de Dieu. Ce sont donc deux épées dont je peux me servir pour mieux pénétrer le mystère de la contemplation de Dieu. C'est à partir d'un effet créé. Cette contemplation philosophique implique un amour qui pousse à l'amour de la vérité. Il faut un très grand amour de la vérité pour contempler philosophiquement. Mais cet amour reste extrinsèque, il n'est pas intrinsèque. Il y a l'intelligence, il y a l'imagination, mais l'imagination est extrinsèque, ainsi que l'amour. C'est simplement un support. J'ai toujours besoin d'imagination pour comprendre. L'imagination ne me donne pas mon objet de contemplation. L'imagination ne spécifie pas ma contemplation. C'est le nous séparé. Séparé de l'imagination, séparé de l'amour, séparé de la sensation. C'est vraiment le nous séparé. Et l'habitude de sagesse vient donner une force et une stabilité à ce nous, à cette intelligence séparée. Ce nous séparé. Et alors là, on comprend que la contemplation métaphysique, c'est la plus intellectuelle. C'est la plus pure. Au niveau de l'intelligence. C'est celle qui implique le point de vue intelligent dans son état pur. Il n'y a rien de plus pur au point de vue intellectuel que la contemplation métaphysique. Pour moi, il arrive une fois dans cette vie. Alors, à ce moment-là, le nous séparer, ça nous dit quelque chose. On comprend que c'est une réalité de nous séparer. On comprend que mon intelligence est capable de contempler philosophiquement, dans un regard très limpide, la présence de Dieu dans la modernité. Et la présence de Dieu dans la très extraordinaire. C'est beau, Dieu, c'est très très beau. Et on saisit vraiment Dieu présent. Je ne peux pas le saisir autrement. Il est caché, mais il est présent à travers un voile. Le voile de l'amour ou le voile de la compréhension. Vous allez me dire, comment ça se fait que ce n'est pas l'être qui est le métaxu de la compréhension. Cette vision. Parce que ce n'est pas l'être en tant qu'être qui est le métaxu de la contemplation de Dieu. Le métaxu de la contemplation du Dieu créateur. Parce que Dieu créateur comme créateur, c'est celui qui communique les sons. Donc ça doit être une scène qui est le métaxu. Alors vous voyez, l'essai a été le métaxu intermédiaire. Le métaxu, vous avez tous l'entendu. Le métaxu, c'est l'intermédiaire. Il y a été l'intermédiaire par laquelle je trouvais l'existence de Dieu. C'est vrai. blessé. Mais pour contempler Dieu, c'est la présence de Dieu. Et donc c'est donner de l'esprit. C'est donc les deux grands aspects de l'esprit, contempler Dieu par la lumière. Or, la lumière, elle n'est parfaite que dans la contemplation de Dieu, et l'amour n'est parfait que dans l'amour de la vie. Vous avez donc bien les trois métaxus qui me conduisent à Dieu. Le métaxus de l'essai, le métaxus de l'amour, le métaxus de la contemplation. Il y en a trois qui me conduisent à Dieu. De un me conduit à poser l'essai de Dieu, et les deux autres me conduisent à contempler la manière dont Dieu existe. Alors, il reste les deux autres contemplations qui sont à partir de la foi. C'est donc la foi liée à l'intelligence humaine qui va me permettre d'acquérir cette habitude de sagesse qui est la théologie. Et c'est la foi liée à l'amour divin qui va me permettre de vivre de cette habitude infuse de ce don du Saint-Esprit, don de sagesse. Alors, il est peut-être intéressant, simplement, je vais vous oublier, qu'est-ce qui spécifie ma contemplation théologique acquise? Qu'est-ce qui spécifie ma contemplation du don de sagesse? Contemplation infinie. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui me spécifie. Qu'est-ce qui spécifie ma contemplation acquise théologique? Ma révélation, le mystère de l'homme, qui est Dieu. Jésus s'est donné comme intermédiaire, il a dit, qui me permet de contempler le mystère de Dieu. C'est par l'humanité sainte de Jésus. Par son cœur et par son intelligence. Vous trouverez la même chose et transposée dans le verbe Christ. Ça me semble très bien au niveau de théologie scientifique. Je contemple le mystère de la très sainte Trinité à travers le mystère de Jésus. Et quelle est la contemplation, quelle est le métaxus de la contemplation mystique? C'est la communication actuelle de l'amour que Dieu me fait de ce qu'il est. C'est par l'amour que j'entre dans l'amour. Donc c'est l'amour de l'Esprit Saint qui m'est communiqué actuellement, qui me permet d'entrer dans cette intimité avec la très sainte. Le métaxus, donc l'amour participé pour la contemplation mystique, pour la contemplation infuse. Tandis qu'au contraire, pour la contemplation acquise, je ne peux pas dire ça. Je peux dire une seule chose, c'est le Christ qui ordonne mon intelligence, qui ordonne. Donc voilà les diverses modalités. Cinq. Maintenant, je puis réfléchir sur ces cinq modalités et voir qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces cinq modalités. Le tikkunon, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun dans ces cinq modalités. Bien, ce qu'il y a de commun dans ces cinq modalités. c'est l'intelligence présente dans la lumière. C'est l'amour présent à l'intelligence. C'est l'amour dans son ultime effort de se porter vers la réalité qu'elle peut et qu'elle veut comprendre. C'est donc le moment du plus grand réalisme. C'est le moment du plus grand réalisme. Est-ce que dans la contemplation, le jugement d'existence est en acte? Si c'est l'activité la plus réaliste. Dans la contemplation esthétique, c'est bien évident. Je ne contemple qu'une œuvre d'art existante. Je ne contemple que la nature existante. Je ne peux pas contempler autre chose. J'ai le visage existant. Autrement, je rêve. Dans la contemplation affective, également, le jugement d'existence est présent. Dans la contemplation de philosophie première, le jugement d'existence est premier, mais il n'est pas explicite en acte. C'est le jugement d'existence de Dieu. C'est sûr. J'ai découvert l'existence de Dieu et je sais que Dieu existe. Et c'est ce jugement d'existence attribué à Dieu qui est en acte dans la contemplation. Dans la contemplation de Dieu. Puisque le jugement d'existence de Dieu est le seul qui me suffit. Les autres, je les ai abandonnés. Ça m'a servi pour mon analyse. Mais ça n'est pas présent en acte. Pour la foi, et donc pour la théologie acquise et la contemplation affuse, c'est le jugement qui m'est donné, le jugement d'existence qui m'est donné. Est-ce qu'il y a des questions? On pose tout de suite quelque chose d'important pour nous. Très important pour nous de distinguer ces cinq modalités de contemplation. Pour tous ceux qui se portent à la contemplation, c'est évidemment
important. Le leadership pour la contemplation théologique, c'est le Christ. Ça voudrait dire que dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas y avoir de contemplation.
J'ai eu l'impression que le Saint-Médrin, c'était très très pratique. C'était avant tout les applications de la loi. Oui, pas tellement contemplatif. Les contemplatifs dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes. C'est pas les théologiens. C'est les prophètes. Ou les âmes consacrées à Dieu,
à qui suffisait la contemplation? À qui suffisait la contemplation?
Il n'y avait pas de théologie mal dans cette histoire. Les morales casuistiques, en fond, de théologie. Il me semble, hein, c'est très délicat cette question-là. Et ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, je vous ai dit, à part quelqu'un, on va répondre tous ensemble. Je ne les ai pas créés, c'est le bien. Alors, il y a des réflexions sur la parole de Dieu, mais une réflexion sur la parole de Dieu, mais avant tout, je dirais, un commentaire sur la parole de Dieu, une espèce de déjeuner sur la parole de Dieu, et pour l'amour, mais pas du tout une contemplation. Et la parole de Dieu, très souvent, arrête. Il n'y a pas de contemplation de la parole de Dieu. Il y a une contemplation de Dieu ou pas de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je mets, vous voyez, pour la théologie acquise, on pourrait dire non. Des mystères. Ce que disait Tartarie. Il vocation du théologien, de la théologie acquise, c'était l'ordre du mystère. Je ne crois pas, on ne contemple pas l'ordre des mystères. On contemple le mystère qui nous a tenu dans le sujet. Et donc dire contemplation de l'ordre des mystères, ce n'est pas juste. Ça, c'est le fruit de la théologie qui ordonne le mystère. Mais la contemplation théologique est au-delà. Alors, elle contemple le mystère qui est le plus proche de nous et qui nous donne l'absolu.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure.